Bonjour à toutes et à tous. J'imagine que vous avez un peu froid. Alors c'est normal, c'est la saison. Ce qui est un peu inhabituel, c'est effectivement qu'il n'y a pas de chauffage aujourd'hui, en tout cas, que ça prend du temps à se mettre en route. Initialement, je voulais vous montrer une image, mais finalement, on va la jouer cette image. Et j'aurais besoin de quelques volontaires. Est-ce que je pourrais avoir trois mages? Trois personnes? Bon, des hommes, des femmes, peu importe. Là, on n'est pas pointilleux sur les détails, mais voilà, juste trois volontaires qui viennent devant. Donc, tournez vers l'assemblée. Oui, admettons que ça fasse trois, mais bon, moi, j'aurais plutôt le rôle de Jésus, je dirais. Mais voilà, on a trois. Il me faudrait Marie et Joseph. Donc, par exemple, Oscar et Lydia, si vous voulez bien mettre. Et si, à la rigueur, je ne sais pas s'il y a possibilité, mais avec Noah de le mettre au milieu, entre les deux. Oui, ou vous inversez, voilà. Très bien. Restez au centre, voilà, là au milieu. Là. Et puis, il faudrait juste un berger. Je vous épargne les animaux, donc il faut juste un berger qui se mettrait juste de ce côté-là. Juste pour que vous puissiez imaginer un petit peu cette image. Le berger, il est en train de regarder son portable. Le couple qui est là, ils sont en train de faire un selfie. Et pour les mages, eh bien, ils sont occupés avec ils ont un colis. Ce sont en fait des livreurs d'Amazon. Voilà, vous pouvez prendre mes affaires. Juste, restez figé sur cette image-là. C'est une image d'une crèche. Peut-être une crèche. On ne pense pas trop à cette scène-là. Je ne sais pas comment vous réagissez. À quoi ça vous fait penser? Allez, on va défiger. Merci encore à nos acteurs. En fait, peut-être que cette image nous fait un petit peu rire au premier abord, et pourtant elle est bien triste. Voilà une crèche qui ressemble étrangement à notre époque, à notre société moderne de consommation. Et nous le savons, nous le voyons depuis déjà plusieurs semaines autour de nous. Pour beaucoup de nos contemporains, Noël ressemble à une fête commerciale centrée au mieux sur la famille, centrée en tout cas sur l'homme. Et l'enfant, pourtant au centre de cette image, n'est plus le centre d'attention. Parce que vous remarquez qu'en fait, les regards ne sont pas tournés vers lui. Voilà une image que j'aimerais que vous puissiez juste conserver, qui reflète Noël tel que nous le vivons aujourd'hui. Mais heureusement, cette période de l'Avent que nous vivons depuis plusieurs semaines nous ramène à l'essentiel, au vrai sens de Noël, où c'est Dieu qui nous fait un cadeau. Et nous nous préparons à célébrer dans une semaine, ça a été rappelé au début du culte, à célébrer dans une semaine avec une joie débordante Noël, en souvenir du jour où un enfant est né et cet enfant était Dieu devenu homme. Celui que nous adorons semaine après semaine, nous n'attendons pas Noël pour cela, mais semaine après semaine, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors restons encore cet après-midi dans cette préparation, dans cet état d'esprit, de pouvoir nous concentrer sur la personne de Jésus. Et après l'étude du prologue de l'évangile de Jean que nous avons faite ces dernières semaines, eh bien nous allons zoomer encore sur une donnée importante concernant notre Sauveur. Le fait que lui, Dieu le Fils, soit venu en chair. Nous allons nous concentrer là-dessus, ce que nous appelons en théologie l'incarnation. Rien à voir avec un concept bouddhiste ou mythologique. D'ailleurs, dans la mythologie gréco-romaine, certains héros étaient des demi-dieux, ayant en général une mère humaine et un père divin, tel était le cas par exemple du plus célèbre d'entre eux, Hercule, fils de Zeus, mais cela reste de la mythologie. Les auteurs du Nouveau Testament ne présentent pas Jésus comme un demi-dieu, mais comme Dieu. Oui, mais pourtant, c'était un homme. Oui, les auteurs du Nouveau Testament parlent de Jésus en tant qu'homme, ayant vécu parmi les hommes. Et la vérité fondamentale que nous croyons en tant que chrétiens, à partir de ce que nous lisons dans la parole de Dieu, c'est que Jésus est à la fois entièrement Dieu et entièrement homme. C'est ce que nous croyons, c'est la vérité fondamentale qui concerne l'incarnation. Il est à la fois entièrement Dieu et entièrement homme. Et vous savez, quand nous chantons qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus, cela est vrai à plus d'un titre. Et parce qu'aucun être n'est à la fois Dieu et humain. Seul Jésus, dans tout l'univers, dans toute l'histoire de l'humanité, a été ce Dieu-homme. Pour reprendre une expression que j'ai évoquée la semaine dernière, ce Dieu-homme. Il n'y a pas d'équivalent et il n'y en aura jamais. Et quand nous y réfléchissons, cette doctrine de l'incarnation est aussi complexe que celle de la Trinité. Et vous allez en tout cas vous en rendre compte. Mais combien il est merveilleux de nous pencher sur cette réalité historique où Dieu s'est fait homme il y a 2000 ans. Dieu le Fils est devenu homme, et cela de manière permanente. L'incarnation n'est pas juste un vêtement que Jésus a enfilé pour s'en dévêtir après sa mission. Mais depuis 2000 ans, un peu plus, Jésus demeure cet homme qui est en ce moment assis à la droite de Dieu et qui règne sur nos cœurs. Comme le sujet est vaste, je vais m'attarder sur trois affirmations. Trois affirmations qui résument ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur la personne de Jésus. Alors c'est vrai que mon exposé aujourd'hui va être particulièrement doctrinal et je m'appuierai évidemment sur les Écritures. Je vous invite à avoir une Bible avec vous, qu'elle soit en papier ou numérique, même si j'ai une préférence pour le papier. Et la première affirmation est la suivante. Le Fils éternel de Dieu est devenu homme sans le péché. Le Fils éternel de Dieu est devenu homme sans le péché. Quand j'étais plus jeune, je ne sais plus à quel moment, en lisant que Jésus passait du temps dans la prière, je me suis demandé, si Jésus est Dieu, comment Dieu peut-il s'adresser à lui-même dans la prière ? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là ? Si Jésus est Dieu, comment ça se fait qu'il s'adresse à lui-même dans la prière ? Cette question, je l'ai eue jusqu'à ce que je comprenne exactement qui est Jésus par rapport à ce Père qu'il prie. Et comme nous l'avons vu dans le prologue de l'évangile de Jean, Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils, distinct de Dieu le Père. Et c'est bien Dieu le Fils qui est venu parmi nous, et non Dieu le Père qui l'a envoyé. Ou Dieu l'Esprit qui est intervenu dans sa conception. C'est Dieu le Fils, seulement, qui est venu parmi nous. Et cette vérité a une répercussion sur nos prières. En effet, si nous croyons que le Fils est distinct du Père et que c'est le Fils qui est devenu homme, nous ne pouvons pas prier ainsi. Merci notre Père d'être venu parmi les hommes. Mais plutôt, merci notre Père d'avoir envoyé Jésus ton Fils parmi les hommes. Vous voyez la nuance ? Et elle est importante cette nuance. Et vous percevez à quel point la parole de Dieu doit façonner nos prières, doit orienter le contenu de nos prières. Si la Bible nous enseigne que c'est le Fils qui est venu parmi nous, eh bien lorsque nous prions le Père, nous ne pouvons pas dire merci d'être venu parmi nous. Merci de t'être incarné parmi nous, puisque c'est Dieu le Fils qui s'est incarné. Il y a une nuance, et elle est importante. Lisons quelques textes du Nouveau Testament. À commencer par celui que vous connaissez bien, dans Jean chapitre 1, le texte que nous avons vu la semaine dernière, Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, le texte que nous avons lu tout à l'heure, 1 Timothée chapitre 3, verset 16, « Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, littéralement a été manifesté en chair, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde. » Il a été élevé dans la gloire. Et puis encore un troisième texte dans Hébreux chapitre 2, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. Verset 14, « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, littéralement le sang et la chair, lui-même l'a aussi partagé, lui-même, c'est-à-dire Jésus, l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Pour Jean, la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu est venue parmi les hommes en étant pleinement homme. Si Jean écrit que la parole a été faite chair, il fait référence à l'événement historique. Et avant ce moment, Dieu le Fils n'était pas un homme. Avant ce moment où Jésus est né parmi nous, parmi les hommes, avant ce moment-là, Dieu le Fils n'était pas un homme. Quant à l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu dans 1 Timothée, il souligne aussi l'humanité de celui qui est proclamé parmi les nations et élevé dans la gloire. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il évoque la solidarité de Jésus avec les êtres humains, en ayant partagé leurs conditions. Et nous comprenons alors que c'est à cause de nous que Dieu le Fils s'est fait homme. C'est à cause des êtres humains que Dieu le Fils a accepté de partager la condition des hommes. Regardez encore les versets qui sont dans Hébreux chapitre 2. Il est question de sa mort à la croix bien sûr. Il est question de sa mort pour nous libérer de la peur de la mort, pour vaincre le diable qui détenait ce pouvoir. Alors pourquoi craindre la mort si Christ, par sa mort, rend possible le pardon de tous nos péchés et nous a donné la vie éternelle ? Pourquoi craindre la mort ? Si Dieu est pour nous, si Dieu nous déclare juste, qu'avons-nous à craindre de la mort ? Nous saisissons alors que Dieu le Fils s'est fait homme afin de pouvoir mourir, puisque Dieu ne peut mourir. Nous saisissons que Dieu le Fils s'est fait homme afin de pouvoir mourir, afin de pouvoir nous sauver. Et l'apôtre Paul décrit cet abaissement de Christ aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. « Lui qui est de condition divine, nous parlons de Jésus. » Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Par obéissance au Père, conformément au plan divin, Jésus a endossé la nature humaine afin de mourir sur la croix pour nous. C'était un acte d'obéissance. Jésus a obéi à son Père, est venu parmi les hommes, en chair, en os, en sang, a donné sa vie. C'était un acte d'obéissance. Et seul le Fils de Dieu pouvait obéir sans faille à la volonté de Dieu. Et justement, cette volonté, il en est question dans Hébreux chapitre 10, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. Et c'est en vertu de cette volonté, la volonté de Dieu, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est parce que nous sommes pécheurs. Et c'est parce que Dieu nous aime que Jésus a livré son corps et son sang une fois pour toutes, pour qu'en lui, nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Mais pour que ce sacrifice de Jésus soit agréable à Dieu, il fallait que celui qui s'offre en sacrifice n'ait aucune trace de péché en lui. Et fort heureusement pour nous, c'est le cas de Jésus. J'aimerais lire simplement deux témoignages de l'Écriture parmi d'autres. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, si vous y êtes, chapitre 4, les versets 14 et 15. Hébreux chapitre 4, versets 14 et 15. Nous lisons ceci. « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. » Et dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19, 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19, vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Comme un agneau sans défaut et sans tache. Jésus est comparé ici à un agneau qui n'a aucun défaut, aucune tâche, condition nécessaire pour que Dieu accepte un tel sacrifice. Et cette image renvoie au fait que Jésus n'a commis aucun péché. Autrement, sa mort à la croix serait méritée et il n'aurait pas pu mourir en même temps pour nous, pour nos fautes. Bien qu'il ait connu réellement la tentation, il n'a jamais succombé. Il n'a jamais désobéi à Dieu. Dieu, devenu homme, ne pouvait pas pécher. Parce qu'il était Dieu, il ne pouvait pas pécher. C'est la très grande différence entre Jésus et nous. Oui, Jésus est l'homme parfait, parfait pour nous sauver. Et vous comprenez alors que le but de l'incarnation, dans le plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité pécheresse. Pourquoi Jésus s'est fait homme? Pour notre salut. Crois-tu en cet homme parfait qui n'est autre que Dieu? Dieu le Fils. Crois-tu que celui qui est égal à Dieu le Père s'est abaissé jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, pour que tes péchés soient pardonnés? Crois-tu cela? Crois-tu que le Fils éternel de Dieu est devenu homme sans le péché? Songe une fois de plus que c'est pour nous sauver, nous qui sommes pécheurs, que c'est pour nous sauver que Dieu le Fils a pris cher. Il a à la fois pris cher en tant que chair, et il a pris cher dans le sens qu'il a vraiment payé pour nous. Mais je vois que certains suivent. Continuons à regarder alors ce que les auteurs bibliques disent encore de Jésus. La deuxième affirmation, c'est que Jésus est une seule personne avec deux natures qui ne se mélangent pas. Jésus est une seule personne avec deux natures qui ne se mélangent pas. Puisque Dieu le Fils a endossé notre humanité, cela signifie qu'il est passé par toutes les étapes qui sont les nôtres, de la naissance à la mort. Et dans cette période de l'Avent, eh bien, nous connaissons bien les textes qui se rapportent à la naissance de Jésus. Et je vous propose que nous puissions lire ensemble deux extraits tirés de l'évangile de Matthieu et de celui de Luc. D'abord dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et puis au verset 20, comme il, c'est-à-dire Joseph, y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 30 à 37. Luc chapitre 1, versets 30 à 37. L'ange dit à Marie, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. Et verset 37, « En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Que pouvons-nous tirer de ces deux textes que nous avons lus concernant Jésus? Comment l'incarnation a eu lieu? Eh bien, dans les deux textes, il est question de la mère, Marie, qui tombe enceinte par l'action du Saint-Esprit, sans intervention humaine, sans rapport sexuel avec un homme. Et combien cela devait bouleverser Joseph. Mais nous en parlerons la semaine prochaine. Notez ce que l'ange dit à Marie, « Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Aucun doute que cet enfant ne sera pas comme les autres. Et en même temps, il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'un bébé qui est né à Bethléem, la ville du roi David. Un enfant qui n'est pas comme les autres, mais en même temps, c'est un enfant. C'est un bébé. Jésus dans toute son humanité. Et comme je l'ai dit précédemment, Jésus est le seul à posséder deux natures. Il est Dieu et homme à la fois. Cela semble difficile à concilier. Comment peut-il être l'un et l'autre pleinement, entièrement? Rien n'est impossible à Dieu. Y compris ce qui dépasse notre entendement. Et puisque cela semblait si difficile à concevoir, eh bien certains enseignaient, notamment à l'époque de l'apôtre Jean, que le Christ n'était pas vraiment un homme. Je vous invite à lire dans la première épître de Jean, dans 1 Jean chapitre 4, les versets 2 et 3. 1 Jean chapitre 4, versets 2 et 3. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et voyez combien il est contraire à Dieu de nier l'incarnation, de suggérer que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu incarné, de séparer le divin et l'humain. Et durant les premiers siècles de notre ère, des hommes ont avancé toutes sortes de doctrines qui minimisaient soit la divinité de Jésus, soit son humanité. Et face aux hérésies nombreuses que je n'aurai même pas le temps de mentionner, il a fallu que l'Église prenne position et pose de manière claire la doctrine des deux natures. Jésus est une seule personne avec une nature divine et une nature humaine qui ne se mélangent pas. Et nous avons du mal avec ça. Deux natures qui ne se mélangent pas en une seule personne. Mais nous ne pouvons pas diminuer l'un ou l'autre. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est un peu Dieu et un peu homme. Il est entièrement Dieu et entièrement homme. Et cela ne se mélange pas. Une personne et deux natures. Et pour bien cerner ce que nous entendons par personne et nature, eh bien voici deux questions suggérées par Henri Blocher et qui sont bien utiles pour distinguer ces deux termes. Lorsque nous parlons de la personne de Jésus, nous posons la question « Qui est-il ?» Et lorsque nous parlons de sa nature, nous posons la question « Qu'est-il ?» Qui est-il pour sa personne ? Qu'est-il pour sa nature ? Et nous répondons « Dieu et homme à la fois ». Rien dans l'Écriture nous orienterait vers un dédoublement de la personne, comme s'il y avait d'un côté Dieu le Fils et de l'autre l'homme Jésus. Jésus n'est qu'une seule personne, le Fils éternel de Dieu incarné. Et aujourd'hui encore, nous devons faire face à des hérésies. Pensez aux témoins de Jéhovah, qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, mais comme une créature de Dieu, et qui vont chercher à le défendre par des versets. Notamment, un des versets qu'ils vont citer, c'est lorsque Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Et donc, ils en déduisent que Jésus est une créature. Il est clair, d'après aussi le texte que nous avons lu dans 1 Jean, il est clair que seul l'Esprit de Dieu peut nous éclairer. Seul l'Esprit de Dieu peut nous permettre de vraiment discerner qui est Jésus en réalité. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, eh bien effectivement, nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous ne pouvons pas y croire. Et si vous confessez que Jésus est bien Dieu et homme à la fois, du fait de l'incarnation, cela ne peut venir que de Dieu, qui nous permet de croire en sa parole. Même si nous avons du mal à vraiment concevoir qu'une seule personne puisse avoir deux natures qui ne se mélangent pas. Mais si nous y croyons, si nous le confessons, si nous sommes prêts à le défendre coûte que coûte, cela vient de Dieu. Mais nous allons voir que cela a d'autant plus d'importance pour que Jésus puisse vraiment jouer son rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est ma troisième et dernière affirmation. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et pour cela, je vous invite à lire dans la première épître de Timothée, à Timothée, plutôt, 1 Timothée chapitre 2, les versets 4 à 6. 1 Timothée chapitre 2, versets 4 à 6. Lui, c'est-à-dire Dieu, qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. En vue du salut des hommes, Dieu n'a pensé qu'à un seul médiateur, une seule personne qui puisse réconcilier les hommes avec Dieu. Un seul homme qui est Dieu en même temps, Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul souligne que ce médiateur doit être un homme. Quelqu'un qui peut représenter l'humanité devant Dieu, qui peut plaider en notre faveur. Et il fallait pour cela un homme pour nous représenter, un homme pour prendre notre place sur la croix. Et nous avons déjà vu tout à l'heure, dans l'Épître aux Hébreux, que le Fils de Dieu a solidairement partagé la même condition que nous, en devenant homme, afin de pouvoir mourir pour nos péchés, à notre place. Et d'ailleurs, dans la suite de ce texte, dans Hébreux chapitre 2, verset 17, eh bien, nous lisons ceci. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être ce médiateur, ce grand prêtre, fidèle dans le service de Dieu pour accomplir l'expiation, le fait que nos péchés puissent être justement punis, afin que nous puissions être pardonnés. Jésus, notre médiateur auprès de Dieu, est le seul, du fait qu'il soit Dieu et homme, le seul à nous apporter la réconciliation avec Dieu. Notre péché nous a séparés de Dieu, mais grâce à Jésus, grâce à sa mort sur la croix pour nos péchés, grâce à sa résurrection, le lien est rétabli. La justice de Dieu a été satisfaite. Et quelqu'un de pur, d'innocent, de parfait a payé pour toutes nos fautes. Or, si Jésus n'était pas Dieu, il serait un simple homme capable de pécher comme vous et moi. Il n'aurait pas pu offrir ce sacrifice. Mais nous le savons et nous le croyons. Il est Dieu, devenu homme sans le péché. Grâce à son œuvre de médiateur, Dieu peut nous pardonner. Dieu ne nous condamne plus. Dieu nous accueille comme ses enfants, comme nous l'avons dit un peu plus tôt dans le culte. Dieu nous accueille comme frères et sœurs de son Fils Jésus-Christ. Et quand nous nous sentons coupables, quand nous savons que nous avons péché contre Dieu, souvenons-nous de l'Évangile. Souvenons-nous du message de la grâce. Bien entendu, demandons pardon à Dieu, mais croyons fermement qu'en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Il est le parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, effectivement, en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Il est certain que les personnes de notre entourage, parmi nos proches, parmi nos amis ou nos collègues qui ne connaissent pas le Seigneur, que ces personnes-là ont besoin de savoir que Dieu a prévu un médiateur. Que Dieu désire se réconcilier avec les hommes. Ou plutôt, que les hommes puissent avoir un moyen de se réconcilier avec lui. Et c'est pour cela que cela reste encore de notre responsabilité de pouvoir leur annoncer cette bonne nouvelle. Que Dieu désire cette réconciliation. Que Dieu désire cette réconciliation. Pensez à celles et ceux autour de vous qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être que parmi ces personnes-là, certains ne savent pas comment atteindre Dieu. Mais Dieu donne le moyen. Dieu a envoyé son Fils. Et c'est ce Fils-là que nous devons annoncer, constamment et inlassablement. Jésus-Christ, le seul médiateur en qui nous mettons toute notre confiance. Frères et sœurs, en ce Noël, Mais aussi au-delà de cette période, faisons en sorte que les regards se tournent de nouveau vers le divin enfant qui est né il y a 2000 ans, qui avait pour nom Jésus et qui était Dieu le Fils en personne, venu en chair et en os. Et je terminerai simplement par un extrait d'une confession de foi qui résume, qui récapitule tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Cette confession de foi est celle des baptistes qui date de 1689. Et je vous lis un extrait de cette confession de foi. Le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, est en vrai Dieu éternel, le rayonnement de la gloire du Père, de même substance et égal à celui qui a fait le monde, qui soutient et gouverne tout ce qu'il a fait. Le Fils de Dieu a, quand les temps furent accomplis, assumé la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles et les faiblesses communes, mais cependant sans le péché. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, l'Esprit Saint venant sur elle et la puissance du Dieu Très-Haut la couvrant comme une ombre. Ainsi, il est né d'une femme, de la tribu de Judas, de la descendance d'Abraham et de David selon les Écritures. De sorte que deux natures complètes, parfaites et distinctes ont été inséparablement unies en une seule personne, sans changement, ni mélange ou confusion. Cette personne est vrai Dieu et vrai homme, et cependant un seul Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Je vous invite à prendre un temps pour méditer de nouveau sur cette doctrine de l'incarnation, à partir de tout ce qui a été rappelé cet après-midi. Croyons-nous dans ces trois affirmations. Le Fils éternel de Dieu est devenu homme sans le péché. Jésus est une seule personne avec deux natures qui ne se mélangent pas. Et Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, notre Père, en cette période de l'Avent, en ce temps où nous voulons garder nos yeux fixés sur ce moment merveilleux où tu as envoyé ton Fils. Merci pour Jésus qui, effectivement, est venu parmi les hommes. Merci pour le Fils que tu as envoyé. Dieu le Fils, devenu homme, assumant entièrement notre condition. Et de cette manière-là, étant le parfait médiateur pour pouvoir œuvrer à la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et cet après-midi, eh bien, nous sommes dans cette salle et nous sommes au bénéfice de ce que Jésus a fait. Nous sommes au bénéfice de ce que ton Fils unique a fait. Et nous te bénissons pour cela. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir continuer à méditer sur toutes ces affirmations que nous avons vues, sur tous ces versets que nous avons lus et qui nous parlent de ton œuvre de salut, qui nous parlent de ton Fils Jésus-Christ. Oui, c'est devant toi que nous ployons le genou, parce que tu mérites toute adoration pour ce plan parfait que tu as annoncé d'avance depuis très longtemps, que tu as accompli de manière tellement extraordinaire, de telle sorte qu'aujourd'hui encore on puisse annoncer cette bonne nouvelle, que le salut est encore possible. Et nous prions encore, nous pensons à nos proches, à notre entourage, à ceux que nous côtoyons jour après jour et qui ne te connaissent pas. Et nous te prions, Seigneur, que tu te révèles. Parce que sans ton esprit, ils ne peuvent pas croire que Jésus est entièrement Dieu et entièrement homme. Alors, nous te demandons, Seigneur, que par le témoignage que nous pouvons apporter, par les mots, les paroles que nous pouvons prononcer, et tout particulièrement lorsque nous annonçons l'Évangile, nous te demandons, Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans le cœur de toutes ces personnes. Oui, c'est vrai, année après année, nous pensons à elles. Nous te demandons, Seigneur, de faire grâce, comme tu nous as fait grâce. Et nous sommes conscients, Seigneur, que dans ton grand amour, tu nous as fait cadeau en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, encore cet après-midi, nous te louons. Au nom de Jésus. Amen.